10h50.
Chapitre 16. Le navire.
Une fois au lit, nous mîmes au point nos plans pour le lendemain. Mais quelles ne furent pas ma surprise et mon inquiétude lorsque Kikeg me donna à entendre qu'il avait consciencieusement consulté Yojo, tel était le nom de son petit dieu noir, et que Yojo lui avait dit deux ou trois fois, en insistant lourdement, qu'au lieu de nous rendre ensemble au port pour choisir de conserve notre navire parmi la flottille de baleiniers, Yojo, dis-je, au lieu de cela, lui avait solennellement enjoint de me laisser à moi seul la responsabilité de la décision, attendu qu'il se proposait de nous prodiguer son aide, et, pour ce faire, avait déjà fait le choix d'un bateau sur lequel, livré à moi-même, je tomberais infailliblement, moi, Ismaël, comme si j'y avais été conduit par le plus grand des hasards. Et c'était sur ce bâtiment que je devais m'embarquer sur le champ, sans me soucier pour l'instant de Kikeg. J'ai oublié de préciser que, en bien des choses, Kikeg accordait une grande confiance au jugement de Yojo, excellent à ses yeux, et à son étonnante prescience. Il le tenait en haute estime, considérant que c'était un assez bon dieu, aux attentions somme toute amicales, mais dont les desseins bienveillants ne se réalisaient pas toujours. Pourtant, ce plan de Kikeg, donc, ou plutôt de Yojo, touchant le choix de notre navire, ce plan me déplaisait fort. Je n'avais pas peu compté sur la sagacité de Kikeg pour repérer le baleinier le plus à même de nous transporter, nous et notre fortune, en toute sûreté. Mais toutes mes protestations restèrent sans effet sur Kikeg, et je fus contraint de me soumettre. Je me préparais donc à régler cette affaire au pas de course, avec une vigueur et une détermination qui devaient rapidement venir à bout d'une question aussi insignifiante. Le lendemain matin, de bonne heure, laissant Kikeg seul avec Yojo dans notre petite chambre, car il semblait que ce jour fût, pour Kikeg et Yojo, quelque chose comme le carême ou le ramadan, un jour de jeûne, de mortification et de prière. J'avoue cependant n'avoir jamais pu déterminer précisément de quoi il s'agissait, malgré des efforts répétés pour maîtriser sa liturgie et ses 39 articles. Abandonnons donc Kikeg, qui observait son jeûne en tirant sur sa pipe tomahawk, et Yojo qui se réchauffait à son feu de copeaux sacrificiels, je pris la direction du port. Après avoir longuement déambulé et posé maintes questions au hasard, j'appris que trois navires s'apprêtaient à appareiller pour des campagnes de 3 ans, la Diablesse, la Bonne Bouche et le Pécode. Pour ce qui est de la Diablesse, j'ignore l'origine de ce nom. Bonne Bouche se comprend sans mal. Quant à Pécode, vous vous souvenez sûrement que c'était le nom d'une célèbre tribu d'indiens du Massachusetts, aujourd'hui disparue comme ont disparu les maîtres de l'Antiquité. Je coulais sur la Diablesse un regard fureteur. De son pont, je sautais sur celui de la Bonne Bouche. Enfin, montant à bord du Pécode, je l'examinais un moment et conclus que c'était le navire qu'il nous fallait. Vous avez peut-être vu, au cours de votre existence, bien des bâtiments curieux. Des lougres aux orteils carrés, des jonques japonaises hautes comme des montagnes, des galiotes pareilles à des caisses à beurre, que sais-je encore. Mais croyez-moi, vous n'avez jamais vu un navire aussi extraordinaire que ce vieux, cet unique Pécode. C'était un bâtiment de l'ancienne école, plutôt petit pour ce qui était de la taille, et qui avait l'air suranné des meubles à pied de griffons. Sa vieille coque, longuement recuite et boucanée par les typhons et les calmes des quatre océans, avait le teint basané d'un grenadier français qui a fait à la fois la guerre d'Égypte et la campagne de Sibérie. Sa vénérable proue paraissait porter la barbe. Ses mâts, taillés sur la côte du Japon, la même où une tempête emporta ses mâts d'origine, ses mâts, dis-je, se tenaient aussi droits que l'épine dorsale des trois vieux rois mages de Cologne. Ses ponts antiques étaient usés et ridés comme la dalle de la cathédrale de Canterbury, lustrée par les semelles des pèlerins, là où fut versé le sang de Becket. À toutes ces marques d'ancienneté s'ajoutaient des traits plus récents, surprenants, liés à la rude carrière qui avait été la sienne plus d'un demi-siècle durant. Le vieux capitaine Peleg, second à son bord pendant de longues années, avant de prendre le commandement de son propre bâtiment, à la retraite désormais, et l'un des principaux propriétaires du Pécode, ce vieux Peleg donc, durant tout le temps qu'il y fut officier, ajouta au caractère fantastique d'origine en disposant un peu partout des ornements bizarres, tant par le matériau que par l'idée que seul, peut-être, le bouclier ou le chalice sculpté de Torquil-Ek surpassait. Il était paré comme un empereur de la barbare Éthiopie, le cou alourdi de pendentifs d'ivoire poli. C'était un navire fait trophée, un bâtiment cannibale, paradant couvert des os ciselés de ses ennemis. Ses pavois ouverts et dépourvus de panneaux étaient rehissés sur toute la longueur, telle une unique mâchoire continue, des longues dents aiguës du cachalot, qui tenaient lieu de cabillaud où l'on amarrait ses vieux nerfs et muscles de chanvre. Ses nerfs ne passaient pas à travers de vulgaires poulies faites du bois des forêts, mais filaient adroitement sur des rayas d'ivoire marin. Pour son très vénérable gouvernail, dédaignant la roue à tourniquet, il exhibait fièrement une barre taillée d'une seule pièce, avec fantaisie, dans la longue et étroite mâchoire inférieure de son ennemi héréditaire. Le timonier manœuvrant cette barre dans une tempête se sentait pareil au tartare qui retient son fougueux coursier en tirant sur le mort. Un noble navire, et pourtant si chargé de mélancolie. Mais tout ce qui est noble n'est-il pas empreint de tristesse ? Comme je cherchais sur les galères derrière une personne qui eût autorité afin de me porter candidat à la campagne de pêche, je ne vis d'abord âme qui vive, mais il me fut impossible de ne pas remarquer une curieuse sorte de tente, ou plutôt de wigwam, plantée un peu en arrière du grand mât. Cela semblait être une de ces installations provisoires que l'on monte pendant que le navire est à quai. De forme conique, haute de 10 pieds environ, elle était faite de longues lames noires et souples de fanons de baleine franches, découpées dans les parties médianes et supérieures de la mâchoire. Leur extrémité la plus large reposant sur le pont, ces lames nouées ensemble formaient un tronc de cône avec, à sa pointe, une touffe de crin flottant qui s'agitait au vent comme le toupet sur le crâne d'un vieux sachem potowotami. Une ouverture triangulaire faisait face à la proue, découvrant à son occupant une vue complète de l'avant. À demi dissimulé dans ce singulier logement, je trouvais enfin quelqu'un dont l'aspect semblait dénoter un détenteur d'autorité, et qui, comme il était midi et que les activités du bord s'étaient interrompues, profitait d'un moment de répit dans le lourd fardeau du commandement. Il était assis sur une chaise de chêne à l'ancienne mode, surchargée de sculptures bizarres dont le siège consistait en un solide lacis de ces mêmes lames élastiques dont le wigwam était fait. Il n'y avait sans doute rien de très remarquable dans l'apparence de l'homme d'âge mûr que j'avais devant moi. Il était tanné et musclé, comme sont la plupart des vieux marins, et emmitouflé dans un vêtement de drap pilote bleu coupé à la façon quaker. Non, rien de remarquable, sinon autour de ses yeux, un réseau fin, presque microscopique, de toutes petites rides qu'avaient dû creuser ses longues navigations sous de terribles grains, où le regard restait fixé au vent, chose qui provoque un plissement permanent des yeux. L'effet de ses pas de doigt est assuré lorsque l'on veut prendre un air mauvais. « Suis-je bien devant le capitaine du Pequod ? » fis-je en avançant vers l'ouverture de la tente. « En supposant que ce soit lui, qu'attends-tu de lui » demanda-t-il. « Je songeais à m'embarquer. »« T'embarquer, vraiment ? Tu n'es pas de Nantucket à ce que je vois. » T'es-tu jamais trouvé dans un canot crevé ? Non, monsieur, jamais. J'imagine que tu ne connais rien à la pêche de baleine, hein ? Non, rien, monsieur. Mais je suis sûr que j'apprendrai vite. J'ai fait plusieurs voyages dans la marine de commerce, et je crois que... Oh diable, la marine de commerce ! Pas de galimatias avec moi. Tu vois cette jambe ? Son extrémité te bottera le derrière si jamais tu me reparles de la marine de commerce. Sans blague, la marine de commerce. Je présume que tu t'estimes très fier d'avoir sa vie à bord de ces navires de commerce. Mais saperlotte, qu'est-ce qui peut bien te pousser à aller pêcher la baleine, mon bonhomme ? Tout cela me paraît bien louche, tu ne crois pas ? Tu n'aurais pas été pirate par hasard ? Tu n'aurais pas volé ton dernier capitaine ? Tu ne songerais pas à assassiner les officiers dès que tu seras au large ? Je protestais de mon innocence sur tous ces points. Je comprenais que ce vieux marin quaker de l'île de Nantucket dissimulait derrière ses insinuations à demi facétieuses des préjugés d'insulaires et regardait avec méfiance tous les étrangers, à moins qu'ils ne vinssent du Cap Cod ou de Martha's Vineyard. Mais quelle raison te pousse à partir pêcher la baleine ? Je dois la connaître avant de décider de t'engager. Eh bien, monsieur, je veux voir ce qu'est la pêche. Ce qu'est la grande pêche. Je veux voir le monde. Ah, tu veux voir ce qu'est la grande pêche ? As-tu déjà rencontré le capitaine... Ah, tu veux voir ce qu'est la grande pêche ? As-tu déjà rencontré le capitaine Akab ? Qui est le capitaine Akab, monsieur ? C'est bien ce que je pensais. Le capitaine Akab est le patron de ce navire. Je me trompais donc. Je croyais avoir affaire au capitaine en personne. Tu as affaire au capitaine Peleg. Voilà, jeune homme, à qui tu parles. C'est à moi et au capitaine Bilbald qui revient de veiller à ce que le Pequod soit armé pour la campagne et que lui soit fourni tout le nécessaire, y compris les hommes. Nous sommes à la fois propriétaires et armateurs. Mais j'allais te dire que si tu veux savoir ce qu'est la pêche à la baleine, comme tu le prétends, je puis te donner le moyen Mais j'allais te dire que si tu veux savoir ce qu'est la pêche de la baleine, comme tu le prétends, je puis te donner le moyen de l'apprendre avant que tu ne t'engages définitivement sans possibilité de dédit. Va t'en voir le capitaine Ahab, jeune homme, et tu t'apercevras qu'il n'a qu'une jambe. Que voulez-vous dire, monsieur? A-t-il perdu l'autre à cause d'une baleine? À cause d'une baleine? Viens, mon garçon, approche-toi. Elle a été dévorée, mâchée, broyée par le plus monstrueux cachalot qui ait jamais défoncé un canot. Sa véhémence m'effraya un peu, et peut-être fus-je également touché par la douleur profonde qu'exprimait son exclamation finale, mais je dis d'un ton si calme que je pus. Je ne puis douter de la vérité de ce que vous dites, monsieur. Mais comment pouvais-je savoir que cette baleine particulière était animée d'une férocité spéciale, bien qu'en vérité, j'eusse pu le déduire du seul accident? Écoute-moi bien, mon gars. Je te trouve les poumons bien tendres, si je puis dire. Tu ne parles pas comme un vrai loup de mer. Es-tu bien sûr et certain d'avoir déjà pris la mer? Monsieur, fis-je. Je crois vous avoir dit que j'ai fait 4 croisières dans la marine de Allons, ne recommence pas. Souviens-toi de ce que je t'ai dit sur la marine de commerce. Ne me pousse pas à bout, je ne le permettrai pas. Mais tâchons de nous entendre. Je viens de te donner une petite idée de ce qu'est la pêche baleinière. Désires-tu toujours t'engager? Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, es-tu homme à lancer un harpon dans la gueule d'une baleine et à prendre aussitôt le chemin de ton arme? Réponds, vite. Oui, monsieur. Si la chose est absolument nécessaire, mais non point pour qu'on se débarrasse de moi, ce qui d'ailleurs ne saurait être le cas. Encore bien répondu. Or donc, tu veux seulement t'embarquer pour découvrir par toi-même ce qu'est la pêche de la baleine, mais aussi pour voir le monde? Tu as bien dit cela, non? C'est ce que j'avais cru comprendre. Eh bien, va jusqu'à là-bas et jette un coup d'œil du côté du vent, et reviens me dire ce que tu auras vu. Je demeurai un instant quelque peu décontenancé par cette invite curieuse, ne sachant s'il fallait la prendre avec humour ou le plus grand sérieux. Mais l'expression menaçante de Peleg, tout entière concentrée dans le plissement de ses pattes d'oie, me fit vite obtempérer. Je marchais jusqu'à la proue et regardais du côté du vent. Le navire, balancé sur son ancre par la marée, pointait à présent obliquement vers le large. La vue qui s'étendait devant moi était sans limite, mais excessivement monotone et rébarbative. Pas le moindre élément de variété. « Eh bien, ton rapport ?» me demanda Peleg lorsque je fus revenu. « Qu'as-tu vu ?»« Pas grand-chose, » répondis-je. « Rien que de l'eau. Mais l'horizon est immense, et il me semble qu'un grain se prépare. Alors, désires-tu toujours voir le monde ? Veux-tu doubler le Cap Horn pour en voir davantage ? Ne peux-tu voir le monde là d'où tu es ?» J'étais un peu abasourdi. Mais je devais absolument partir pêcher la baleine, et je partirai. Et le Pequod était un aussi bon navire qu'un autre. C'était le meilleur, pensais-je. Et je redis tout cela à Peleg. Me voyant si déterminé, il exprima son intention de m'engager. « Autant signer les papiers tout de suite, » ajouta-t-il. « Viens avec moi. » Ce disant, il passa devant moi, et nous descendîmes dans la cabine. Assis sur la barre d'arcasse, se trouvait un personnage qui me parut fort curieux et surprenant. L'homme se révéla être le capitaine Bilbald, qui était, avec le capitaine Peleg, l'un des plus importants propriétaires du navire. Les autres parts, comme c'est parfois le cas dans ces ports, étant détenus par une foule de vieux rentiers, de veuves, d'orphelins et de pupilles sous tutelle, chacun possédant la valeur d'une tête d'allonge, un pied de planche ou de deux clous du navire. Les gens de Nantucket placent leur argent dans les navires baleiniers, comme vous investissez le vôtre dans des fonds d'État garantis et d'un bon rapport. Bilbald, comme Peleg, et d'ailleurs beaucoup d'autres, Nantucket, était un Quaker, cette secte ayant été à l'origine du peuplement de l'île, et ses habitants ont conservé jusqu'à ce jour, dans une proportion peu commune, les particularités du Quaker, modifiées de manière variable et irrégulière par un apport de traits totalement étrangers et hétérogènes. Car certains de ces mêmes Quakers sont les plus sanguinaires des marins et chasseurs de baleines. Ce sont des Quakers guerriers, des amis, rien moins qu'amicaux. De sorte qu'il existe parmi eux des exemples d'hommes qui, portant tel nom tiré des Écritures, la coutume en est singulièrement répandue sur l'île, et absorbant pendant l'enfance le majestueux et théâtral tutoiement de l'idiome quaker, mêlent d'étranges façons à ses caractéristiques innées, tout au long d'une vie hardie et courageuse semée d'aventures sans nombre, mille témérités de comportements dignes d'un roi de la mer scandinave ou d'un héros épique de Rome. Et lorsque toutes ces choses Et lorsque toutes ces choses s'unissent chez un être d'une force physique supérieure, doté d'un cerveau bien conformé et d'un cœur grave, un être que le calme et la solitude des longues nuits de quart dans les eaux les plus lointaines et sous des constellations inconnues dans l'hémisphère nord ont amené à penser librement, sans souci des traditions, et qui, ayant reçu directement du Saint-Vierge, confiant et déterminé de la nature les fraîches impressions, suaves ou cruelles, qu'elle peut prodiguer, en a appris, aidé de quelques avantages fortuits, à s'exprimer dans une langue altière, nerveuse, hardie. Cet homme, dis-je, est unique dans la population entière d'une nation. Il est digne des pompes les plus grandioses, promis aux plus nobles tragédies. Et sa grandeur ne sera en rien diminuée, du point de vue dramatique, s'il semble posséder de naissance ou par accident, dans le tréfonds de son être, une morbidité à demi volontaire qui exerce sur lui un pouvoir tyrannique. Car l'héroïsme tragique a toujours sa source dans une certaine morbidité. Sois-en bien assuré, ô jeune ambition, la grandeur humaine est maladie, et n'est que cela. Cependant, ce n'est pas encore à un individu de ce genre que nous avons affaire présentement, mais à un homme d'une toute autre espèce, dont Cependant, ce n'est pas encore à un individu de ce genre que nous avons affaire présentement, mais à un homme d'une toute autre espèce, dont la singularité, pourtant bien réelle, résulte d'un autre aspect du quaquerisme, modifié par des circonstances individuelles. Comme le capitaine Peleg, le capitaine Bilbald est un baleinier à la retraite, jouissant d'une rente confortable. Mais à la différence du capitaine Peleg, qui se souciait comme d'une guigne de ce que l'on appelle les choses sérieuses, et les considérait même comme des détails insignifiants, le capitaine Bilbald avait non seulement été élevé selon les principes les plus stricts du quakerisme de Nantucket, mais en outre rien, dans la suite de sa vie de marin, pas même la vue des jolies créatures dévêtues au-delà du Cap Horn, rien de tout cela n'avait pu émouvoir ce quaker bon teint. Rien n'avait altéré, ne fût-ce qu'un coin de sa veste. Malgré cette constance, on notait chez le brave capitaine Bilbald un certain manque de la plus ordinaire cohérence. Tout en refusant par scrupule de conscience de porter les armes contre des envahisseurs terrestres, il n'avait pourtant pas cessé d'envahir l'Atlantique et le Pacifique. Et bien qu'il se proclamât émi-juré du sang versé entre les hommes, il avait serré dans son manteau étroit, répandu à flot celui du Léviathan. Au crépuscule contemplatif de sa vie, le pieux Bilbald parvenait-il à concilier ses contraires dans son souvenir ? Je l'ignore. Cela, en tout cas, ne paraissait guère le troubler. Et il était sans doute, et depuis longtemps, arrivé à la sage et raisonnable conclusion que la religion d'un homme est une chose, et que ce monde pratique en est une autre. Le monde paie des dividendes. Petit mousse de la chambre d'abord, portant court la plus grossière des grosses toiles, il se leva au rang de harponneur, dont il revêtit le large gilet cintré, puis il devient chef de pirogue, second, capitaine, propriétaire enfin. Et comme je l'ai indiqué, Bilbald conclut sa carrière aventureuse en se retirant complètement de tout. Et comme je l'ai indiqué, Bilbald conclut sa carrière aventureuse en se retirant complètement de toute vie active à l'âge respectable de 60 ans, pour consacrer le reste de ses jours au paisible recouvrement d'un revenu bien gagné. Il se trouve que Bilbald, je le dis à mon grand regret, était tenu pour un vieil avare impénitent, et du temps qu'il naviguait, un épouvantable et féroce tyran. On me raconta à Nantucket, c'est une bien curieuse histoire, que lorsqu'il commanda le vieux baleinier Catgut, presque tous les hommes de son équipage en débarquant furent transportés à l'hôpital dans un état de complet épuisement. Pour un homme pieux, et particulièrement pour un quaker, il avait le cœur dur. C'est le moins qu'on puisse dire. Jamais il n'injuriait ses hommes, m'apprit-on, mais il parvenait toujours à leur imposer d'énormes et cruels travaux de forçat. Lorsque Bilbald était second, son œil terne, en vous fixant, vous causait une si violente agitation qu'il vous fallait attraper quelque chose, n'importe quoi, un marteau ou un épissoir, vous jeter dans le travail comme un forcené, vous occuper à une chose ou à une autre. Sous ses yeux, l'indolence et la paresse fondaient instantanément. Quant à sa personne, elle était l'incarnation parfaite de son esprit utilitariste. Son long corps maigre ne présentait aucune chair inutile, aucune barbe superflue. Il avait au menton un duvet doux et parcimonieux, semblable au tissu élimé de son chapeau à large bord. Tel était donc le personnage que je trouvais assis sur la barre d'Arcas lorsque je pénétrais dans la cabine avec le capitaine Peleg. L'espace entre les ponts était étroit, et c'est là qu'était installé le vieux Bilbald, qui se tenait toujours ainsi, droit comme un piquet, et ne s'appuyait jamais contre quoi que ce fût afin de ménager les basques de son manteau. Son chapeau était posé à côté de lui, il croisait les jambes avec raideur, sa veste de drap bis était boutonnée jusqu'au cou, et le nez chaussé de lunettes. Il semblait absorbé par la lecture d'un gros volume. Bilbald, s'écria le capitaine Peleg. Tu t'y remis, hein, Bilbald? Cela fait 30 ans, et je suis sûr de ne pas me tromper, que tu étudies ces écritures. Où en es-tu, Bilbald? Comme il avait une longue habitude du langage impie de son vieux camarade, Bilbald, ignorant sa remarque irrévérencieuse, leva tranquillement les yeux et, m'apercevant, le dirigea d'un air interrogateur sur Peleg. Il dit qu'il y a un autre homme, Bilbald. Il veut s'embarquer. Est-ce là ta volonté? Demanda Bilbald d'une voix caverneuse en se tournant vers moi. Oui, c'est là ma volonté, répondis-je, imitant involontairement les accents solennels de ce quaker entre les quakers. Que penses-tu de lui, Bilbald? S'inquiète Peleg. Il fera l'affaire, dit Bilbald en m'examinant. Et il se remit à épeler son texte d'une voix marmonnante et distincte. C'était bien, pensais-je, le plus étrange vieux quaker qu'il m'eût été donné de voir, surtout par contraste avec Peleg, son ami et compagnon de bord, si bravage dans son allure. Mais je ne dis mot, me contentant d'observer attentivement autour de moi. Peleg ouvrait à présent un coffre. Il en sortit le rôle d'équipage, posa une plume et de l'encre devant lui et s'assit à une petite table. Je songeais qu'il était grand temps que je décide pour moi-même des conditions que j'étais prêt à accepter pour cette campagne. Je savais déjà que dans la pêche baleinière, on ne paie pas de gages, mais que tous les hommes de l'équipage, y compris le capitaine, reçoivent ce qu'on appelle une part des bénéfices, et que ces parts sont proportionnées à l'importance relative du service de chaque marin. Je n'ignorais pas non plus que le novice que j'étais en matière de pêche n'obtiendrait pas une grande part. Mais considérant que j'avais déjà navigué, que je pouvais tenir un gouvernail, exécuter une épissure et faire toutes sortes d'autres choses, que je ne doutais pas que, d'après mes informations, on pût m'offrir une part d'un 275e, c'est-à-dire la 275e partie des bénéfices nets de la campagne, quel qu'en fût à l'arrivée le montant. Et bien que ce fût là ce qu'on appelle la part du pauvre, c'était quand même mieux que rien, et si la chance nous souriait pendant ce voyage, cela paierait à peu près les vêtements que j'aurais usés à bord, sans compter le manger et le coucher pour lesquels je n'aurais pas à débourser un liard pendant 3 ans. D'aucuns jugeront que c'était là une piètre façon d'amasser une fortune princière, et ils auront 1000 fois raison. Mais je suis de ceux qui ne se laissent guère émouvoir par les fortunes princières, et m'estime parfaitement heureux si le monde accepte de me fournir le toit et le couvert lorsque je descends à l'enseigne menaçante du grain noir. Tout compte fait, je jugeais ce 275e assez équitable, mais je n'aurais pas été étonné que l'on m'offrit un 200e vu ma belle carrure. J'avais pourtant une raison de ne pas trop espérer recevoir une portion généreuse des bénéfices. À terre, j'avais entendu parler du capitaine Peleg et de Bilbald, son impénétrable compère. Et l'on disait que ces deux-là étant les principaux propriétaires du Pequod, les autres, dispersés et de peu d'importance, leur abandonnaient presque entièrement la conduite des affaires du navire. Et je n'étais pas sûr que ce vieux pingre de Bilbald n'eût pas une voix déterminante dans le choix des recrues, d'autant qu'il semblait être chez lui dans la cabine du Pequod, lisant sa Bible comme s'il eût été au coin de son feu. Peleg, à présent, s'efforçait vainement de tailler une plume avec son couteau de poche. Et pendant ce temps, à ma grande surprise, Bilbald, que ses formalités intéressaient pourtant au premier chef, continuait à marmonner ses versets sans nous accorder la moindre attention. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille. Eh bien, capitaine Bilbald, interrompit Peleg, quel trésor allons-nous donner à ce jeune homme ?»« Tu le sais mieux que moi, répondit une voix sépulcrale. Une part d'un 770e ne serait pas excessive, tu ne crois pas ? Où la teigne et la rouille détruisent mais amassent des trésors ?»« Des trésors, avec une part d'un 770e ?» Ainsi donc, Bilbald, vous avez résolu que je n'amasserai pas une part semblable de trésors considérables ici-bas où la teigne et la rouille détruisent. C'était bien en effet la part du pauvre et même de l'indigent. Et bien que la magnitude du chiffre puisse commencer par tromper un terrien, la plus superficielle réflexion montrera que 777, qui est un nombre assez élevé, une fois réduit à un tantième, eh bien on verra alors que la 770e partie d'un sou est une somme bien plus médiocre que 777 doublons d'or. C'est ce que je me dis à ce moment. « Crénom, Bilbald, s'écria Peleg, tu ne veux quand même pas filouter ce jeune homme, il faut lui donner plus que cela. » « Un 770e, répéta Bilbald sans lever les yeux, et il se remit à marmotter. « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. »« Je vais l'inscrire pour 1/300. Tu m'entends, Bilbald ?» dit Peleg. « Une part 1/300, te dis-je. » Bilbald posa son livre et se tourna vers lui avec gravité. « Capitaine Peleg, tu as un cœur généreux, mais tu ne saurais oublier ton devoir envers les autres propriétaires du navire. Des veuves et des orphelins pour beaucoup. Et que si nous rétribuions trop libéralement les services de ce jeune homme, nous enlèverons peut-être le pain de la bouche à ses veuves et à ses orphelins. Une part d'un 770e, capitaine Peleg. Bilbald, rugit Peleg en se dressant et en s'agitant bruyamment. Maudit sois-tu, capitaine Bilbald. Si j'avais suivi tes conseils en ces matières, je traînerais depuis longtemps une conscience assez lourde pour envoyer par le fond le plus gros navire qui ait jamais doublé le Cap Horn. Capitaine Peleg, répondit Bilbald d'une voix imperturbable. Je ne sais pas si ta conscience tire 10 pouces d'eau ou 10 brasses, mais du fait de ton opiniâtre impénitence, je crains fort qu'elle ne fuite de toutes parts, et à la fin te coule à pic dans la fosse ardente de l'enfer, capitaine Peleg. La fosse ardente. Tu m'insultes, compère, au-delà de ce qui est humainement supportable. C'est une épouvantable abomination de dire à une créature de Dieu qu'elle est vouée à l'enfer, par tous les tonnerres. Bilbald, répète donc une chose pareille, et tu vas faire sauter les boulons de mon âme. Mais j'avalerai une chèvre, toute crue, poil, corne, tout, hors d'ici, cagot à la face terreuse, fils de pistolet à eau, au large. Tout en tempêtant de la sorte, il se précipita sur Bilbald, qui glissa de côté avec une merveilleuse et fulgurante célérité, et put ainsi lui échapper pour un temps. Cette violente algarade entre les deux principaux propriétaires du navire me remplit de la plus vive inquiétude, et assez fortement tenté de renoncer à m'embarquer sur un vaisseau dont le commandement était provisoirement assuré par d'aussi douteux armateurs, je m'écartai de la porte pour laisser sortir Bilbald, qui devait être impatient de se soustraire au courroux grandissant de Peleg. Mais à mon étonnement, il se rassit très calmement sur la barre d'Arcas, sans manifester la moindre intention de se retirer. Il semblait aguerri aux manières de l'impénitent Peleg. Quant à celui-ci, ayant déchargé sa bile, il parut complètement purgé et s'assit pareillement comme un agneau, bien que son corps fût encore un peu secoué comme par des spasmes nerveux. Souffla-t-il enfin. On dirait que le grain est parti sous le vent. Bilbald, toi qui savais si bien aiguiser les lances, taille-moi cette plume, veux-tu ? Mon couteau a besoin d'un bon coup de meule. Merci, Bilbald, merci. Bon, à présent, mon garçon, Ismaël, c'est bien le nom que tu m'as donné, n'est-ce pas ? Eh bien, je t'inscris pour 1/300. Capitaine Peleg, dis-je, j'ai avec moi un ami qui veut également s'embarquer. Puis-je l'amener demain ? Bien sûr, dit Peleg, qu'il vienne, et nous verrons à quoi il ressemble. Et lui, quelle part veut-il ? Grogna Bilbald, levant les yeux du livre dans lequel il s'était replongé. Ah, ne t'occupe donc pas de cela, Bilbald, dit Peleg. A-t-il déjà chassé la baleine ? Ajouta-t-il en se tournant vers moi. Il a tué plus de baleines que je ne pourrais compter, mais capitaine Peleg. Eh bien, amène-le donc. Les papiers signés, je m'en fus, convaincu d'avoir fait du bon travail ce matin, et que le Pequod était précisément le navire choisi par Yojo pour nous mener, Kikeg et moi, au-delà du cap. Mais je n'avais fait que quelques pas lorsque je m'avisais que le capitaine avec lequel j'allais partir me demeurait inconnu. Il est vrai que, dans bien des cas, le navire aura été complètement armé et aura accueilli tout son équipage à bord avant que le capitaine ne se montre pour prendre le commandement, car ces campagnes sont parfois si longues et si brefs les séjours à terre que le capitaine, s'il a une famille ou quelque occupation pressante de cette sorte, ne se soucie guère de son navire au mouillage, mais l'abandonne aux armateurs jusqu'à ce que le bâtiment soit prêt à mettre à la voile. Néanmoins, un homme prudent préfère toujours voir à quoi il ressemble avant de se confier à lui une fois pour toutes. Je fis demi-tour et abordai le capitaine Peleg, à qui je demandai où je pouvais trouver le capitaine Akab. « Et que lui veux-tu donc ? Tout est en ordre, tu es enrôlé. »« Oui, mais j'aimerais le voir. » Je ne crois pas que cela soit possible pour l'instant. Je ne sais pas exactement ce qu'il a, mais il reste enfermé chez lui, comme s'il était malade, bien qu'il n'en ait pas l'air. À la vérité, il n'est pas malade, mais il n'est pas non plus en bonne santé. De toute façon, mon garçon, il refuse souvent de me voir, aussi je ne pense pas qu'il te recevra. C'est un homme singulier, le capitaine Akab. D'après ce que pensent certains... Mais brave... De toute façon, mon garçon, il refuse souvent de me voir, aussi je ne pense pas qu'il te recevra, toi. C'est un homme capitaine... C'est un homme singulier, le capitaine Ahab, d'après ce qu'en pensent certains. Mais brave. Oh, tu l'aimeras bien, Ahab, sois sans crainte. Il y a de la grandeur en lui, du blasphème et du divin. Il parle peu, Ahab, mais quand il ouvre la bouche, tu feras bien d'écouter. Tu es prévenu désormais. Ahab est au-dessus du commun. Il a fréquenté l'école, mais aussi les cannibales, connu des prodiges plus profonds que les vagues, plongé sa lance ardente dans le cœur d'ennemis plus puissants et plus étranges que les baleines. Ah, sa lance, la plus tranchante, la plus précise de notre île. Rien à voir avec le capitaine Bilbal, non. Rien à voir non plus avec le capitaine Peleg. C'est Ahab, mon gars, Ahab. Et tu sais que dans l'ancien temps, Ahab était un roi qui porta couronne. Un roi très infâme d'ailleurs. Lorsque ce roi impie fut tué, les chiens n'ont-ils pas léché son sang ? Viens ici, approche, plus près, dit Peleg, le regard lourd d'une expression qui me fit tressaillir. Écoute-moi, mon gars, ne dis jamais cela à bord du Pequod. Ne le dis jamais nulle part. Le capitaine n'a pas choisi son nom. C'est une lubie de sa veuve de mère, une folle, une ignorante, qui mourut quand il n'avait que 12 mois. Pourtant, Tistig, la vieille squaw de Gayhead, affirma que ce nom, d'une façon ou d'une autre, se révélerait prophétique. Et peut-être que d'autres insensés de son espèce te diront la même chose. Mais je veux t'en avertir, c'est un mensonge. Je connais bien le capitaine Ahab. J'étais son second il y a des années de cela. Je sais quel homme il est, un brave, non point confié en dévotion comme Bilbald, mais un brave homme qui a le juron à la bouche, un peu comme moi, sauf qu'il y a chez lui bien d'autres choses encore. Certes, ça n'a jamais été un guéluvron, je le sais bien. Et je sais aussi que sur la route du retour, il a un peu perdu ses esprits pendant quelque temps. Mais ce sont les lancinantes douleurs de ses moignons sanglants qui ont provoqué cet état, comme chacun a pu le voir. Enfin, je sais que depuis qu'il a perdu sa jambe, au dernier voyage à cause de ce maudit cachalot, il est, comment dire, d'humeur maussade, hargneux, enragé parfois. Mais tout cela passera. Laisse-moi te dire et t'assurer une fois pour toutes, jeune homme, qu'il vaut mieux naviguer avec un bon capitaine morose qu'avec un mauvais capitaine jovial. Je te dis adieu, et ne sois pas injuste à l'égard du capitaine Ahab sous prétexte qu'il porte un nom infâme. Enfin, mon gars, il a une femme, qu'il a épousée il y a 3 voyages, une fille douce et résignée. Songe que cette tendre épouse a donné un enfant au vieil homme. Peux-tu donc encore croire qu'il y ait en Ahab un mal sans remède, un mal absolu ? Non, non, mon garçon. Ahab, tout blessé, tout foudroyé qu'il est, Ahab a toutes les qualités d'un homme. Je m'éloignais, abîmé dans une profonde songerie. Ce qui venait de m'être accidentellement révélé du capitaine Ahab m'emplissait d'une douleur à la fois indéfinissable et intense. Et, comment dire, j'éprouvais à cet instant, pour lui, compassion et tristesse. Pour quelle raison ? Peut-être à cause de cette jambe cruellement arrachée. Et puis aussi une certaine terreur sacrée, impossible à décrire, qui n'était pas exactement de la terreur, et dont je serais bien en peine de définir la nature. Mais la sensation était là, et elle ne diminuait en rien mon intérêt pour lui, même si j'avais quelque mal à contenir mon impatience de voir s'éclaircir le mystère qui semblait envelopper un être que je ne connaissais encore que très imparfaitement. Cependant, mes pensées furent entraînées dans d'autres directions, de sorte que, pour un temps, le ténébreux Ahab disparut de leur horizon.